Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Megawati invite des scientifiques russo-indonésiens à étudier les volcans sous-marins. Ministère indonésien de la Santé, PTFI et Lusaid lance le programme PASTI Papouasie. Salon des plantations indonésiennes a donné lieu à une coopération d'une valeur de 3,1 millions de rupiahs. KRI WSH 991 se prépare à naviguer vers plusieurs pays du Pacifique le 10 octobre. 1400 chambres d'hôtel à Matakam ont été réservées par des invités de MotoGP. Commissaire français chargé du marché intérieur de l'Union européenne démissionne. Voici le journal complet. La cinquième présidente indonésienne, Megawati Soekarnoputri, a invité la partie russe via l'Université de Saint-Pétersbourg à mener conjointement des recherches en haute mer, notamment sur les volcans sous-marins. Ce sujet a émergé lors des discussions entre la délégation indonésienne dirigée par Megawati en sa qualité de présidente du comité directeur de l'Agence nationale de recherche et d'innovation, BRAN, et de l'Agence de développement idéologique Pancasila, BPIP, avec la délégation de l'Université de Saint-Pétersbourg, Russie, dirigée par le recteur Nikolai Kropachev. La réunion s'est tenue au bureau du recteur de Saint-Pétersbourg, en Russie, lundi 16 septembre. On sait que Megawati Soekarnoputri a commencé sa visite de travail en Russie en organisant une rencontre et une hospitalité avec le recteur de Saint-Pétersbourg, Nikolai Kropachev. Megawati était accompagnée de la ministre de l'Autonomisation des Femmes et de la Protection de l'Enfance, Bintang Puspayoga, et du professeur de la Faculté des Relations Internationales de l'Université Saint-Pétersbourg, Koni Rakundini Bakri. Le ministère indonésien de la Santé, en collaboration avec Freeport Indonesia Société Anonyme, PTFI, et l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, a lancé le programme partenariat pour accélérer la réduction du retard de croissance en Indonésie, PASTI. Le programme est mis en œuvre en Papouasie à Timika, la résidence de Mimika, Papouasie centrale. La directrice générale de la santé publique du ministère de la Santé, Dr. Maria Esumiwi, dans une déclaration écrite citée par Antara lundi 16 septembre, a déclaré que le programme vise à soutenir l'accélération de la réduction du retard de croissance et à améliorer le statut de la nutrition des enfants papous. Le directeur vice-président exécutif de développement durable PTFI, Klaus Wamofman expliquait que sa partie s'engage à améliorer la qualité de vie des communautés autour des zones opérationnelles de l'entreprise, notamment à travers des investissements dans la santé. Le directeur de l'USAID Indonésie, Jeff Cohen, a ajouté que le gouvernement des États-Unis est heureux de pouvoir travailler avec PTFI pour soutenir les efforts du gouvernement indonésien visant à prévenir le retard de croissance chez les enfants de Papouasie centrale et de Papouasie du Sud. Salon des plantations indonésiennes ou Bunex 2024 organisé par le ministère de l'Agriculture à ISBS de Tangerang, Banten, a abouti à la signature de 11 collaborations d'une valeur allant jusqu'à 3,1 millions de rupiah. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de Bunex 2024, Prayudi Samsuri, dans sa déclaration de lundi 16 septembre, citée par Antara. Le Bunex 2024 s'est tenu du 12 au 14 septembre 2024 sur le thème « Plantation durable pour la sécurité alimentaire et énergétique vers une Indonésie dorée en 2045 ». Prayudi a relevé que Bunex 2024 avait organisé avec succès l'événement avec un total de 133 stands le soutenant se composant de 60 stands de MPME et de 73 stands d'entreprises de plantation et de 13 institutions de soutien. Le nombre total de visiteurs a atteint plus de 15 200 visiteurs. Le navire de guerre de la République d'Indonésie, KRI, Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, s'apprête à naviguer vers plusieurs pays de la région Pacifique pour une mission de visite amicale le 10 octobre 2024. Le chef du service d'information du commandement de la flotte 3, le capitaine de frégate Haji Sismianto, a expliqué lundi 16 septembre que les préparatifs pour vérifier l'état du navire, les réparations et la mise à disposition d'une ambulance avaient été effectués. Ceci est important car le KRI WSH 991 fonctionne comme un navire auxiliaire hospitalier appartenant à la marine indonésienne. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo est actuellement un navire de guerre et un navire auxiliaire hospitalier sous le contrôle du commandement de la flotte 3 de la marine indonésienne. Haji Sismianto a expliqué que le départ prévu du KRI WSH 991 vers plusieurs pays du Pacifique partirait de Sorong, Jakarta, puis naviguerait vers plusieurs pays dans le Pacifique. Cependant, jusqu'à présent, les pays de destination du KRI WSH 991 sont toujours en discussion et il n'y a donc pas encore de décision finale. L'Association des hôtels de Mataram, AHM, de la province de Nusa Tenggara Ouest, a déclaré qu'actuellement, 1400 chambres d'hôtels dans la ville ont été réservées par les invités du Moto GP Mandalika, qui aura lieu du 27 au 29 septembre 2024. Le secrétaire de l'Association des hôtels de Mataram, Rega Fajar Fidaus, à Mataram, a expliqué lundi 16 septembre que le nombre de chambres réservées provenait spécifiquement de 35 hôtels membres de la HM, avec un total de 2800 chambres. Ainsi, selon Rega, les chambres d'hôtels restantes qui n'ont pas été remplies représentent 1400 chambres, soit 50% du total des chambres préparées par les membres de l'Association des hôtels de Mataram. Le commissaire français chargé du marché intérieur de l'Union européenne, Thierry Breton, a démissionné lundi 16 septembre et a accusé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, affaiblissant sa position. Breton a été nommé par le président français Emmanuel Macron comme candidat officiel de la France pour un second mandat. Cependant, selon Breton, dans les dernières étapes des négociations concernant la composition du futur conseil des commissaires, von der Leyen a demandé à la France de critiquer la candidature de Breton pour des raisons personnelles qui n'ont jamais été discutées directement avec Breton. La France doit maintenant désigner un autre candidat. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Ces auditeurs, pour l'arbitre suivante, voici donc le commentaire ayant pour le titre « En nos zones sourdes pour la survie de l'humanité ». Le 16 septembre, le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'ozone, ZMO, un rappel important du rôle essentiel de la couche d'ozone dans le maintien de la stabilité de la température de la Terre et dans la protection de la vie contre les rayons ultraviolets ou vie nocifs. Cependant, cette couche protectrice s'amincit progressivement, ce qui pose de graves menaces, notamment le cancer de la peau, la cataracte, les dommages au système immunitaire et les dommages environnementaux, tels que les dommages aux plantes et à la vie marine. L'appauvrissement de la couche d'ozone, souvent causé par les activités humaines, est également lié à l'augmentation de la température mondiale. L'une des principales substances responsables de l'appauvrissement de la couche d'ozone est le chlore, Cl, que l'on trouve couramment dans les chlorofluorocarbures ou CFC. Ces produits chimiques sont largement utilisés dans les réfrigérants, décongélateurs, réfrigérateurs, climatiseurs et autres appareils de refroidissement, ainsi que dans les aérosols pour assainissement d'air, lacs pour cheveux et parfums. Bien que le CFC ne soit pas présent à l'état naturel et qu'il existe en petite quantité dans l'atmosphère, ils sont environ 10 000 fois plus puissants en tant que gaz à effet de serre que le dioxyde de carbone CO2. Cette année, la Journée mondiale de l'ozone a pour thème « Faire progresser l'action climatique », ce qui signifie renforcer l'action climatique, protéger l'ozone. Lors d'un événement organisé à Bogor, lundi le 16 septembre pour la Journée mondiale de l'ozone, la ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, a mis en avant un rapport du groupe d'évaluation scientifique du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, soutenu par l'ONU. Le rapport a confirmé que près de 99% des substances appauvrissant la couche d'ozone interdite ont été progressivement éliminées. L'Indonésie a fait des progrès significatifs dans la réduction des hydrochlorofluorocarbures ou HCFC, les réduisant de 37,5% en 2020 et de 55% en 2023. Les HCFC, introduits dans les années 1980 en remplacement des CFC, sont également progressivement éliminés par les pays en développement. L'Indonésie a commencé à éliminer progressivement les HCFC en 2013. Selon la ministre Siti Nurbaya, si les politiques actuelles continuent d'être appliquées et correctement mises en œuvre, la couche d'ozone devrait se rétablir complètement en 2066 au-dessus de l'Antarctique et 2045 au-dessus de l'Arctique et en 2040 à l'échelle mondiale. La restauration de la couche d'ozone est un objectif cher à l'humanité tout entière. Cependant, pour y parvenir, il faut un effort collectif et de la détermination. Il est possible de réduire l'utilisation de substances nocives en optant pour des produits respectueux de l'environnement sans danger pour la couche d'ozone, en entraînant régulièrement le système de climatisation et en se protégeant des rayons UV, en appliquant régulièrement de la crème solaire, en portant des lunettes de soleil anti-UV, en chapeau ou des vêtements à manches longues lorsque l'on est à l'extérieur. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir. Bonsoir, chers auditeurs. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui va commencer avec l'événement sur la journée de la Croix-Rouge indonésienne. Le 3 septembre 1945, le président Sukarno ordonna la création d'une organisation nationale de la Croix-Rouge, PMI. Suite à cette directive, le ministre de la Santé, Buntaran, forma un comité spécial connu sous le nom de Comité des Cinq. Le 17 septembre 1945, la PMI a été officiellement créée sous la direction du vice-président Mohamed Hatta. Le rôle de la PMI est d'aider le gouvernement dans ses efforts sociaux et humanitaires, en particulier dans les tâches de la Croix-Rouge, comme le prévoient les conventions de Genève de 1949, qui ont été ratifiées par le gouvernement de la République d'Indonésie en 1958 à travers la loi numéro 59. Passons maintenant à l'événement sur la Journée nationale des transports en Indonésie. La Journée nationale des transports, Harhubnas, est commémorée chaque année le 17 septembre. Selon le site officiel du ministère des Transports, la commémoration est basée sur le décret ministériel numéro SK-274-Z-1971 du 26 août 1971. L'événement de la Journée nationale des transports a pour but de sensibiliser le public à l'importance du secteur des transports en Indonésie. Cette année, la Journée nationale des transports a adopté le thème « Transports avancés, nouveau Nusantara ». Ce thème reflète l'esprit de collaboration et de synergie entre toutes les parties prenantes du secteur des transports, visant à faire progresser les transports pour une vie meilleure dans le nouvel État indonésien. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la signature de l'accord de paix de Camp David pour la paix au Moyen-Orient le 17 septembre 1978 à la Maison Blanche, Washington, D.C. Le président américain Jimmy Carter a mené 12 jours de négociations entre le président égyptien Anwar el-Sadat et le premier ministre israélien Menachem Begin. L'accord doit son nom à Camp David, la résidence présidentielle américaine située dans le comté de Frederick, dans le Maryland, où se sont déroulées les négociations. Cet accord a ouvert la voie au traité de paix israélo-égyptien signé en 1979. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Di atas hati dan
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie, intitulée Nickel indonésien à Naval augmente avec succès la valeur des exportations de produits dérivés du nickel. Avec moi, Audrey. Chaque jour, le programme d'aval du nickel mis en place par le gouvernement indonésien a réussi à augmenter la valeur des exportations de produits dérivés du nickel. Cela se voit dans la valeur des exportations qui a été multipliée par 8, passant de 4,31 milliards de dollars américains en 2017 à 34,44 milliards de dollars américains en 2023. C'est ce qu'a expliqué le ministre coordinateur des affaires économiques de la République d'Indonésie, Erlangga Hartarto, dans son discours à l'événement Groundbreaking HPL New Energy dans la région Zone industrielle New Energy Morowali, Régence de Morowali, province de Sulawesi centrale, samedi 14 septembre. Selon les données du ministère de l'Investissement BKPM, jusqu'en juin 2024, l'investissement total pour le nickel en aval, en particulier ceux liés à la construction de fonderies et d'usines de batteries pour véhicules électriques, a atteint 30 milliards de dollars américains. Au cours des 5 dernières années, plus de 2000 GWh de capacité de batteries lithium-ion ont été déployées dans le monde pour soutenir 40 millions de véhicules électriques et des milliers de projets de stockage d'énergie. À cet égard, l'Indonésie a le potentiel de devenir un acteur mondial clé dans la production de batteries pour véhicules électriques, notamment en étant capable de fournir 210 GWh de batteries EV par an, car l'Indonésie possède de riches ressources minérales, notamment en nickel. Le ministre coordonnateur Erlangga a expliqué que divers pays considèrent qu'il est important que l'Indonésie fasse partie des minéraux critiques. Il a ajouté que l'Indonésie discutait actuellement avec les États-Unis, l'Union européenne, le Canada et l'Australie, ainsi qu'avec d'autres pays concernant l'accord sur les minéraux critiques. Le ministre coordonnateur Erlangga estime que si l'Indonésie-Canada et l'Indonésie-Australie unissent leurs forces, la force de l'écosystème des véhicules électriques, que ce soit sous forme de lithium ou de nickel, sera forte. Il a ajouté que même aujourd'hui, des produits à base de sodium ou de sel sont en cours de développement. Le ministre coordonnateur Erlangga Hartarto a également apprécié Neo Energy pour avoir réalisé son investissement en construisant la première fonderie de lixiviation acide à haute pression, ou HPAL en Indonésie, qui utilise entièrement des énergies précipitées d'hydroxyde mixte comme précurseur des cathodes de batteries de véhicules électriques. Le projet de batterie Neo Energy HPAL devrait pouvoir augmenter la capacité nationale MHP de 120 000 tonnes par an. Cette installation HPAL est située dans la zone industrielle Neo Energy Morowali, une zone industrielle conçue pour être un centre de traitement de minéraux basé sur l'énergie verte. Toutes les opérations dans la région utiliseront ce qui est en fait la pratique industrielle la plus respectueuse de l'environnement d'Indonésie. Pour la zone industrielle, NOMIE elle-même a obtenu un permis d'exploitation de zone industrielle en août 2024, ce qui offre une sécurité juridique et une confiance aux investisseurs potentiels. Le ministère indonésien de coordination de l'économie apprécie ce domaine car il soutient l'objectif de zéro émission de carbone dans l'exploitation minière et l'industrie en raison de son statut de projet stratégique national. La collaboration avec le TNI, l'armée nationale indonésienne et Polri, la police indonésienne, est importante car la zone constitue un atout national. Erlangga espère que cette collaboration pourra aider l'industrie indonésienne à passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Bon chargé d'État, c'est tout, mon Indonésie. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter la cascade de Blangkolam. La Semaine Nationale de Sport ou PON est l'événement multisport national en Indonésie. En 2024, les provinces d'Aceh et du nord de Sumatra organisent le 21e PON qui a lieu du 9 au 20 septembre 2024. Aceh, la province la plus occidentale de l'Indonésie, il est certainement intéressant non seulement de voir l'effervescence des matchs sportifs, mais aussi de visiter la province surnommée la Véranda de la Mecque. Vous pouvez profiter de diverses destinations touristiques intéressantes, entre autres la cascade de Blangkolam. La cascade de Blangkolam est située au milieu de la forêt. Elle offre donc un air frais et magnifique. L'emplacement n'est pas proche de l'entrée. Depuis l'entrée, vous devez descendre au moins 600 marches. Vous vous sentirez certainement fatigué, mais votre fatigue disparaîtra lorsque vous verrez la beauté de cette cascade de 75 mètres de haut. Se baigner est le bon moyen de profiter de l'exotisme de la cascade de Blangkolam. Vous pouvez immédiatement prendre une douche après avoir joué dans l'eau de la cascade de Blangkolam. En plus de vous baigner, vous pouvez également pique-niquer dans cette zone touristique. Vous pouvez apporter votre propre nourriture et ensuite étendre une natte à l'ombre des arbres Blangkolam. Cette cascade s'appelle Blangkolam parce que sa forme ressemble à une piscine, comme une coupe géante remplie d'eau coulant d'une falaise. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent visiter cette belle cascade, Blangkolam est située dans le village de Sidomulyo, dans la région du nord d'Aceh à Aceh. Vous devez parcourir une distance d'environ 30 km depuis le centre-ville de Aceh du Nord. Vous pouvez utiliser les transports privés ou bien les transports en commun. Le billet d'entrée à la cascade coûte 5000 rupiah par personne. Chers amis, c'est un magazine culturel de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir. Akan yang
Tard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Mengapa. Mengapa, pourquoi? Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien. Mengapa. Mengapa? Pourquoi? La situation est Chris, un vlogueur australien, est avec des artisans tisseurs à Baobab. Chris a demandé pourquoi de nombreuses femmes de Baobab savent bien tisser. Bonne écoute.
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, intitulé « Mengapa ». Mengapa, pourquoi? Je fais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Saya, saya, je. Mengapa, mengapa, pourquoi? Banyak. Banyak, beaucoup, autant, perempuan, perempuan, femme, pandai, pandai, savent, menenun, menenun, tisser, Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? Pourquoi y a-t-il beaucoup de femmes ici savent tisser? Tradisi. Tradisi, tradition. Bouton, bouton, bouton. Percaya. Percaya, croire. Membawa, membawa, apporter. Kebaikan, kebaikan. Bonheur, bagi, bagi, pour ou à. Keluarga, keluarga, famille. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu l'expression mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? En français, pourquoi tant de femmes ici savent tisser? Dans cet énoncé, il y a le mot interrogatif mengapa. Mengapa, pourquoi? Qui sert à demander la cause ou la raison. Dans cet énoncé, le mot mengapa, mengapa, pourquoi, est utilisé pour demander les raisons pour lesquelles de nombreuses femmes boutonnaises sont douées pour le tissage ou savent tissage, ou savent tisser. Pour demander une cause ou une raison, le mot interrogatif mengapa, mengapa, pourquoi, suivi d'une expression sur la chose dont vous voulez trouver la raison. Chers amis, un autre exemple. Allons, écoutons des exemples d'utilisation du mot mengapa, mengapa, pourquoi, dans d'autres phrases. Mengapa masyarakat Buton gemar makan ikan? Mengapa masyarakat Buton gemar makan ikan? Pourquoi les Boutonnais aiment-ils manger du poisson? Mengapa harga kain tenun Mengapa harga kain tenun kamohu mahal? Mengapa harga kain tenun kamohu mahal? Pourquoi le prix de tissu tissé kamohu est-il cher? Chers amis, le kamohu est l'un des tissus typiques de l'île de Buton, dans la province de Sulawesi du Sud-Est. Kamohu est désigné comme patrimoine culturel immatériel de l'Indonésie. L'Indonésie possède une variété de tissus typiques de diverses régions, par exemple le tissu terfo de la province de Papouasie, le sika intelligent de la province de Sumatra occidentale. Le sike est connu de la province de Sumatra occidentale, les ulos de la province de Sumatra du Nord et l'endek de la province de Bali. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Berita hadir. jaga di paruh untuk aku, kamu dan kita. Seri telah terbawa angin bahagia, berdiri dan genggamlah harapan. Cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani langkahmu. Tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau generasi pemberani. Jika rintangan menantimu, mencoba pudarkan semangatmu, ingat kau insan terbaik. Karena kau telah tercipta untuk berjuang. Cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani langkahmu. Tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau generasi pemberani. Cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani langkahmu. Tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Étrange ami, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Rasakan hangat bersahabat, setiap sudut senyuman menyambut. Santun ramah warga menyapa, alamnya membuat tenang jiwa. Bunga kuncup harum wangi, ditanam subuh di pinggir kali. Sungguh tak cukup datang sekali, pasti hati kan rindu lagi. Kota ini kota idaman, mandiri beradab juga nyaman. Tempat investasi amanah, bersih semar, rukun dan indah. Pelabuhan, perdagangan, industri, wisata maju, sejahtera. Harmonis, tertib, tentram dan aman. Kota idaman, ayo ke Dumai, ayolah ke Dumai, ayo datanglah ke Dumai. Kota idaman, kota yang nyaman, sekali datang sejuta kenangan. Kepingan surga yang istimewa, prima dona bumi lancang kuning. Investasi amanah, bersih semarak, rukun dan indah. Pelabuhan, perdagangan, industri, wisata maju, sejahtera. Harmonis, tertib, tentram dan aman. Dumai indah, Dumai kota
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3,25 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @ voice.of.indonesia, joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.